Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi, il est 15h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. La société civile demande au président Félix Tshisekedi Tshilombo de diminuer les charges fiscales du Nord Kivu. Cette requête est formulée en cette période où les habitants subissent les conséquences économiques de la guerre menée par les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Le Maniema a connu plus de 700 cas de violation des droits humains en 4 mois, selon le coordonnateur de Congo Action, une organisation de défense des droits de l'homme. Raphaël Mouchanga Kalomé met les autorités devant leurs responsabilités. Notre invité est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga Martinez, affirme que 3/4 des Congolais plaident pour des sanctions contre des personnalités de la RDC en vue de renforcer la confiance des Congolais face à la coopération européenne. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les habitants continuent de subir les conséquences économiques de la guerre des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Toutes les voies d'approvisionnement et d'écoulement des produits sont actuellement bloquées par les rebelles. Dans une lettre ouverte, la société civile demande au président Félix Tshisekedi Tshilombo de diminuer les charges fiscales de cette province. Explication de Sifama Grou.
Pour le président de la société civile du Nord Kivu, la pression ne fait que s'accentuer et certains opérateurs économiques se retrouvent obligés de fermer les portes de leurs activités. John Banyene.
Aujourd'hui, Goma est considéré comme une prison ciel ouvert. Les gens qui quittaient par exemple Nyanzale, Tepinga, Masisi pour venir acheter des produits à Goma, ils ne viennent pas comme il faut. Et s'ils y vont, ils sont taxés par les rebelles. Pour un camion, on paye de 300 dollars à 1000 dollars pour un camion, pour l'aller et pour le retour. Aujourd'hui, pour aller par exemple dans le Grand Nord, il faut passer par le Rwanda et l'Ouganda. On fait payer la population, les Tenali, 45 dollars.
Même son des cloches pour le président de l'association des pétroliers du Nord Kivu à Penoki. Providence Muhiga évoque le problème de surtaxation et la multiplicité des contrôles alors que toutes les voies d'écoulement de leurs produits sont bloquées et leurs activités ne marchent plus.
Vous allez voir, pour la même taxe, vous avez plusieurs services qui viennent. La surtaxation et les réels. Et quand ils viennent, ils ne tiennent pas compte des circonstances dans lesquelles nous sommes en train d'évoluer.
Fin des comptes, c'est la population qui paye les prix de cette dégradation du climat économique causée par la guerre du M23. Goma, Sifamagourou, Radio Okapi.
À Beni, pendant ces temps, le bilan de l'attaque menée mercredi par des rebelles ougandais de l'EDF sur la localité de Mantumbi est revu à la hausse. Le président de la société civile affirme que 2 autres corps ont été retrouvés dans les champs, dont celui de l'infirmier titulaire et du comptable du centre de santé de Mantumbi, ce qui porte à 10 les nombres des civils qui ont été tués. Omar Kalicia demande par conséquent aux forces conjointes d'intensifier les opérations militaires dans cette zone en proie aux rebelles. Et puis, fin hier jeudi à Beni, d'une formation sur les mécanismes de transfert des compétences et acquis de la MONUSCO dans la protection des civils, organisée par la section des affaires civiles de la mission onusienne. Ce recyclage a réuni pendant 3 jours en effet les autorités politico-administratives, policières, militaires, des acteurs de la société civile et des leaders communautaires. Le compte-rendu de Grévis Salomon.
Au cours de cet atelier, les participants ont été formés au système d'alerte sécuritaire ainsi qu'aux outils de protection des civils. Une manière pour la MONUSCO d'établir les plans de transfert et d'appropriation par la communauté des compétences acquises durant son mandat afin de garantir la pérennisation de ses actions après ce retrait de la RDC. Odiever Katsurana, membre du comité local de protection CLP qui rompt dans les territoires de Lubero, s'en réjouit.
C'était vraiment intéressant parce que, ensemble avec les autorités, nous allons définir des mécanismes pour
pour élaborer une chaîne de transmission des alertes précoces à la protection des civils.
Sissi Mouké Moussokalei est coordonnateur du service de la protection civile dans les territoires de Walikale. Il estime que la MONUSCO devrait laisser à ses services des matériels pour la protection civile en cas d'incident.
La MONUSCO d'appuyer le service de la protection civile matériellement, tels comme des téléphones, un matériel de communication, des véhicules anti-incendie, des motos, pour que la protection civile mène à bien son service.
Tout en saluant l'organisation de cet atelier, l'inspecteur provincial adjoint de la territoriale antenne de Boutembo pense que la paix reste l'unique héritage que la MONUSCO devait léguer à la population avant son départ. Marthe Bwanakawa.
Qu'on nous laisse la sécurité, une entité stable.
Beni Grévy Salumou, Radio Kapi.
Dans le Kwilu, la communauté musulmane Ahmadiyya a assisté jeudi après-midi les déplacés des Kwamout vivant à Bandounouville en vivre et en non-vivre. Le missionnaire Fanny Souleymane Malik parlait d'une action de solidarité en marge du mois de Ramadan. Il est au micro d'Irène Bomaluzolo.
Selon la recommandation de notre bien-aimé Allah, nous sommes venus aider nos frères dont les déplacés des territoires de Kwamoutou. Nous avons apporté les vivres parce qu'ils sont dans les besoins, quoi. Comme nous savons très bien que ce sont des réfugiés. Nous avons apporté 5 sacs de foufou, 3 sacs de maïs avec les sacs de sel, un bidon d'huile, les tomates, oui, avec un sac et demi de savon poussière. C'est les petites contributions des membres selon notre système de la communauté qui contribue. Nous faisons ça en suivant les enseignements du Saint-Coran et notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit d'aider les nécessités, les veuves, tout ça. C'est pour cela que nous avons fait ça. Et surtout en suivant notre slogan qui dit « Amour pour tous et haine pour personne ». Et surtout en voyant nos frères, les déplacés, ils sont en difficulté, ils ont tout perdu, vous voyez, il manque à manger, quoi. C'est pour cela que nous sommes venus les aider à l'occasion de notre clôture des mois de Ramadan. Bon, le message que je peux donner à nos frères déplacés, en tant que missionnaire, ils doivent aussi beaucoup prier, penser à Dieu, donc il ne faut pas qu'ils désespèrent, Inch'Allah.
J'ajoute que les déplacés concernés ont salué le geste qui vient ainsi soulager leur souffrance pour quelques jours au site d'hébergement de Malebo. Dans un autre chapitre, au Maniema, de janvier à mai 2024, plus de 700 cas de violation des droits humains ont été enregistrés. Ces statistiques sont données par Congo Action, une organisation de défense des droits de l'homme. S'est confiant à la presse hier après-midi, le coordonnateur de cette ONG a attiré l'attention des autorités sur le respect des droits de l'homme. Raphaël Mouchanga Kaloumé le dit à Florence Kizalunga.
Nous avons les rapports de monitoring depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai. Nous avions enregistré pas moins de 747 cas de violation des droits humains dans la province du Maniema. À Kabambare, où il y a un accalmie apparent pour le moment, c'est là-bas où la situation est trop précaire. Et la ville de Kindu aussi enregistre plusieurs cas de violation des droits humains. Au mois d'avril seulement, il y avait 16 arrestations arbitraires dont les cas étaient recoupés par les Maïmaï Malaïka, les FARDC, la PNC et les agents de l'ANR, dont 12 hommes et 6 femmes ont été arrêtés arbitrairement, dont l'âge varie de 20 à 45 ans. Il y avait 9 détentions illégales, 10 cas de torture, 3 cas de viol ou agression sexuelle, 16 cas de violence physique, 59 cas de violence psychologique, 1 cas d'assassinat. Une fille a été tuée par son mari, dont il est en prison centrale. Et nous avons pas mal de cas que nous avons enregistrés.
Politique à présent et un plus bref, contentieux des résultats provisoires de l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le verdict de la cour d'appel est attendu ce vendredi selon le greffe. Une requête de Vidier Chimanga, candidat malheureux à ce poste, a été instruite. L'affaire a été prise en délibéré mercredi. Le requérant Chimanga Vidier accuse le secrétaire général de l'UDPS de corruption et de fraude présumée lors du vote ayant porté Daniel Bumba à la tête du gouvernorat. Il demande par conséquent la distribution des véhicules aux députés provinciaux et demande l'annulation pure et simple des résultats provisoires qui ont été publiés par la CENI. Allons maintenant dans la province du Tanganyika où les chefs coutumiers du territoire du Congolo demandent au nouveau gouverneur d'œuvrer pour la réhabilitation des routes de cette province. Cette requête a été formulée dans une déclaration faite jeudi à Congolo. À Kalemie, la correspondance de Paul Emunanga.
Les chefs coutumiers de cette chefferie, 3 secteurs et 22 groupements du territoire des Congolos, se sont retrouvés ce jeudi à Congolo Centre pour une réunion mensuelle. À cette occasion, ils ont lancé un message au gouverneur élu du Tanganyika, Christian Kitungwa. Ils demandent notamment au nouveau chef de l'exécutif provincial de réhabiliter la route nationale numéro 5 qui relie Congolo à Kalemie qui est très délabrée. Cela pour désenclaver Congolo. Jules Kitungwa Mwenye, président des chefs coutumiers des Congolos. Nous, les chefs coutumiers de Congolo, nous demandons à notre nouveau gouverneur Magufuli du Tanganyika de réhabiliter la route Kalemie-Congolo-Mbulula jusqu'au Kasai. Il faudrait qu'une personne à vélo ou avec un véhicule qui quitte Kalemie atteigne Congolo sans difficulté. Un autre problème est celui des chefs coutumiers. Nous avons un salaire dérisoire. Les inondations signalées sur toute l'étendue de la province du Tanganyika est un autre dossier qui attend les nouveaux gouverneurs des provinces. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 35 femmes et filles de Beni ont été formées sur l'usage des outils numériques dans 5 domaines de la vie. Ce recyclage organisé par le Comité pour la Justice et l'Unité avec l'appui de la Fondation Orange a duré 5 mois. Elle vise notamment l'autonomisation, la résilience et la réinsertion socio-économique de ces femmes et filles. Le récit de Blaise Makassi.
Ces femmes et filles ont été formées en bureautique, administration scolaire, gestion comptable, entrepreneuriat et robot collecte. Cette formation leur permet d'acquérir des connaissances en traitement des textes, gestion et communication. Elles ont également appris comment faire progresser leur business, le développement des stratégies commerciales et l'élaboration des plans d'affaires. Pour Célestin Bungeki, coordonnateur national de l'ONG Comité pour la Justice et l'Unité, cette formation permet à ces femmes de devenir autonomes.
Nos attentes, c'est que toutes ces femmes-là vont travailler dans la communauté et ils vont apporter un plus à la communauté et à leurs intérêts à subvenir bien sûr aux besoins essentiels de leurs familles respectives.
Les bénéficiaires de cette formation notent qu'elle leur permet déjà d'évoluer dans différents domaines de la vie. Yvonne Moussienene, s'exprimant au nom des bénéficiaires, met en exergue les lacunes comblées à l'issue des 6 mois de formation.
Remercions de tous ces magnifiques projets à notre faveur et contribuer fortement à notre formation afin de faciliter notre insertion socio-économique ainsi que l'autonomisation qui constitue l'un de nos besoins majeurs.
Le projet Maison Digitale initié par la Fondation Orange vise à former des femmes porteuses d'un projet entrepreneurial.
Merci Blaise Makassi. Dans la Tchopo, l'UNICEF a remis hier 8 motos au ministère provincial de la Santé publique. Ces engins seront destinés à la supervision des activités dans les zones de santé. Le chef de division de la santé et le chef de bureau de l'UNICEF demandent aux bénéficiaires d'utiliser ces engins à bon escient. Pour en parler, retrouvons à Kisangani Jacques Mukonkole.
La cérémonie de remise officielle de ces 8 motos ainsi que de leurs accessoires s'est déroulée au ministère provincial de la Santé. Une occasion pour le chef de bureau de l'UNICEF de préciser que cette dotation est financée par la Banque mondiale. Ces engins ainsi que d'autres annoncés pour très bientôt doivent être utilisés rationnellement, a souligné Mokhtar Han.
On espère continuer ce partenariat et dans les mois qui viennent, il y aura peut-être 2 véhicules. Les discussions sont en bonne voie et j'espère que ces véhicules pourront arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour permettre aux professionnels que vous êtes plus proches des populations sur le terrain, mais que notre mandat puisse être vraiment bien réalisé sur le terrain au profit des populations, notamment des femmes et des enfants, qui sont notre priorité au niveau de l'UNICEF.
Pour sa part, le chef de division provinciale de la santé, Dr. Bienvenu Ikomo Bitalo, a tout d'abord loué le partenariat existant entre le gouvernement et l'UNICEF avant de remercier ce dernier pour cette précieuse dotation.
Et la DPS Tchopo ayant des problèmes, surtout par rapport au nombre élevé des enfants 0-12, et ce travail de la récupération de ces enfants ne peut être possible que si les cadres qui travaillent au niveau de la coordination antenne et des zones de santé ont des moyens de déplacement pour aller superviser la réalisation de ces activités sur le terrain.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, au lendemain de l'annonce expresse des résultats de la présidentielle qui a été remportée par Mahamad Idriss Déby, selon l'organe chargé d'organiser ces élections, le calme règne actuellement en N'Djamena. Ce vendredi, la vie a repris timidement son cours dans la capitale, mais un important dispositif sécuritaire reste maintenu. Poursuite à Madagascar de la campagne électorale pour les législatives jusqu'au 27 mai. À Antananarivo, la compétition entre l'opposition et la majorité présidentielle s'annonce particulièrement rude dans les quartiers populaires où des milliers d'habitants voient les candidats défiler devant eux. La Russie a lancé ce vendredi une offensive terrestre dans la région de Kharkiv au nord-est du pays pour pouvoir percer les lignes de défense ukrainiennes, a annoncé le ministère de la Défense ukrainienne. Kiev procède actuellement à l'évacuation des habitants des régions frontalières et le président ukrainien Zelensky évoque une bataille féroce.
L'invité.
Notre invité, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga Martinez, affirme que trois quarts des Congolais souhaitent voir l'Union européenne augmenter des sanctions contre certaines personnalités congolaises, selon une enquête. Objectif visé, renforcer la confiance des Congolais face à la coopération européenne. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Nicolas Berlanga Martinez, bonjour.
Bonjour.
Quelle évaluation faites-vous de la coopération bilatérale Europe-République démocratique du Congo?
Mais écoutez, force est de constater qu'en 2024, il y a eu des hauts et des bas dans la coopération bilatérale. Je pense que c'est bien de reconnaître que peut-être il y a eu des décisions qui auraient mérité un peu plus d'explications, ou même qui n'ont pas su garder exactement la sensibilité de la situation en RDC. Et sur la base de ces constats, je pense qu'on peut construire un bâtiment en positif. Et si on regarde la bouteille à moitié pleine, il y a énormément de choses qui ont été faites dans tous les domaines, dans les domaines même militaires, des réformes du secteur de sécurité, dans la santé, dans l'éducation, dans la préservation de la nature au Congo. Et ça, c'est ça qu'on doit garder, pas pour être complaisant, mais au contraire pour se motiver, pour dire, écoutez, nous travaillons ensemble depuis de plus de 60 ans. Donc, travaillons sur cette base pour faire que l'avenir, que les démons soient plus fortueux.
Alors, la perception des Congolais sur l'Union européenne, on sent qu'il y a une diminution de la confiance qu'on devait accorder à l'Europe face à la Chine, à la Russie. Est-ce que très concrètement, vous pouvez nous rappeler par des chiffres, les réalisations de l'Europe en République démocratique du Congo et surtout, comment comptez-vous renforcer cette confiance?
Mais c'est vrai qu'il y a une perception mitigée suite à certaines décisions récentes. Moi, je voudrais réitérer que des milliers de foyers ont accès à l'électricité avec le soutien de l'Union européenne, qu'il y a plus de 11 millions de Congolais qui ont accès à la santé et l'éducation grâce au soutien de l'Union européenne, qu'il y a plus de 2 millions et demi de personnes, des Congolais, des hôpitaux, des écoles qui ont accès à l'Internet grâce à l'Union européenne, la préservation de la nature qu'on fait avec la IUCN congolais arrive à plus de 20 territoires sur les 145. Et nous appuyons aussi les forces armées. Évidemment, quand on a vu qu'il y avait cette perception mitigée, on a voulu mener une étude faite par une agence indépendante qui nous a montré qu'il y a encore trois quarts des Congolais qui souhaiteraient voir augmenter les actions de l'Union européenne sur place. Donc ça nous encourage à préparer les démons.
Justement, on voulait savoir quel modèle de coopération vous voulez imprimer.
Mais bon, quel est le modèle européen? Le modèle européen d'investissement cherche à qu'une partie de la transformation de toutes ces extractions se fasse sur place. Le modèle européen répète que ces investissements doivent être accompagnés par des efforts de formation professionnelle. Il ne faut pas se baser sur l'expertise étrangère. Ce modèle européen va faire attention à que les bénéfices de ces investissements aussi arrivent aux communautés voisines autour de ces projets. Faire attention pour limiter les dégâts environnementaux. Respecter les droits de travail, les conditions de travail, en sachant que ce sont des défis difficiles. Mais on va les défendre. Et moi, en tant qu'ambassadeur, je vais les défendre en haute voix et j'espère que nos compagnies vont aussi le faire.
Ce modèle ne peut être possible que dans une RDC en paix et pourtant aujourd'hui le pays est en proie de la violence, surtout dans sa partie est. Quelle perception avez-vous de la crise sécuritaire dans l'est et que préconisez-vous pour que la paix soit une réalité dans cette partie du pays?
Bon, tout d'abord de dire que nous sentons la souffrance de la population à l'est comme la nôtre. Parfois, on pense que dans la diplomatie moderne, les diplomates arrivent dans un pays avec des lunettes spéciales pour s'épargner de ces souffrances. Ce n'est pas le cas de la diplomatie européenne. Nous regardons de près. Moi-même, je suis allé 3 fois à l'Est depuis en 2024, justement, pour montrer ma solidarité, mais aussi pour m'imprégner de la réalité et pouvoir la défendre. Nous proposons, nous défendons qu'il n'y a pas de solution militaire, qu'il y a une solution négociée et politique qui doit mettre en face les hautes autorités du Rwanda et les hautes autorités du Congo sous l'égide de la médiation africaine, comme c'est le cas de l'Angola, pour trouver une solution. Et l'Union européenne serait derrière ces efforts dans la mesure du possible. Mais ça n'évite pas de condamner la militarisation de la vie à l'est du pays, l'offensive de M23, l'appui du Rwanda au M23 et la présence militaire du Rwanda sur le sol congolais. Et nous demandons ce retrait et ces cessations d'appui.
Nicolas Berlanga Martinez, je vous remercie.
Merci à vous.
C'était l'invité de Radio Kapi, l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Nicolas Berlanga Martinez, interrogé ici à Kinshasa par Michel Kifindangoy. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Kapi. Merci d'avoir écouté.